Bien, alors bonjour. Je m'appelle Xavier Santoni, je suis psychanalyste, tout particulièrement orientée dans les prises en charge d'enfants. Par ailleurs, je suis également partenaire et associée de Psychanalyse Magazine. Alors, dans le cadre de cette journée de conférence, ayant pour thème l'interruption volontaire de grossesse, lorsqu'il m'a été suggéré de répondre à cette question, dit une vie, ça sert à quoi ? J'avoue avoir ressenti tout l'embarras dans lequel on peut se trouver face à certaines questions d'enfants, lesquelles ont fréquemment cette propension à nous poser ce que l'on appelle de grandes questions existentielles, auxquelles, en tant qu'adultes, on a souvent renoncé à y trouver des réponses objectives ou tout au moins satisfaisantes. Alors néanmoins, qu'est-ce que la vie, quelle qu'elle soit, ici en ce qui concerne l'être humain, elle est avant tout destinée à la pérennisation de l'espèce. En effet, si dès demain, il n'y avait plus aucune vie nouvelle, très rapidement, il finirait par ne plus y avoir de vie du tout. Freud, dans sa théorie sur les pulsions, a qualifié de pulsion de vie cette force en chacun de nous, destinée justement à l'autoconservation. En effet, chaque jour, chacun de nous, nous allons mettre en place des attitudes, des comportements visant à nous maintenir en vie. Lorsque les individus se reproduisent, ils le font avant tout afin de se prolonger, de se continuer. Nous avons tous un fantasme d'immortalité qui fait que de cette manière, au travers de nos enfants, on a comme ça l'illusion que même après notre mort, quelque chose de nous va continuer à survivre. Alors la pulsion de vie est avant tout un principe d'union. En effet, lorsque un homme et une femme vont s'unir dans l'acte sexuel, il va y avoir une fusion qui va permettre la procréation. Néanmoins, Freud a observé que cette pulsion de vie est un élément perturbateur. En effet, cette fusion va provoquer une multiplication afin de mettre en place des unités de plus en plus grandes, une sorte d'expansion avec la mise en place d'une tension importante. Donc il va y avoir la stabilité initiale qui va être tout à fait perturbée. Alors face à ce constat, Freud a émis l'idée, pour le moins inattendue, suivant laquelle l'individu est alors gouverné par un besoin pulsionnel et impérieux de détruire cette pulsion de vie, au travers de ce qu'il a qualifié la pulsion de mort. La pulsion de mort arrive alors pour rétablir l'équilibre qu'il y avait auparavant, pour rétablir une notion de calme et de repos. Ainsi, Freud donc expose deux tendances psychiques, à la fois opposées, mais cependant indissociables l'une de l'autre. D'un côté, la pulsion de vie qui donne la vie, mais qui perturbe l'ordre, et de l'autre côté, la pulsion de mort qui, elle, va rétablir la paix. Alors on peut tout à fait mettre en parallèle ce qui se passe lors d'une interruption de grossesse, à savoir que la pulsion de vie donc apparaît et que subitement la pulsion de mort va prendre le dessus. Alors il est bien évident qu'il s'agit là d'un processus tout à fait névrotique. C'est un véritable mécanisme de défense obéissant aux exigences du moi. Anna Freud, dans son ouvrage « Le moi et les mécanismes de défense » a largement développé ce processus, expliquant ainsi qu'une pulsion, avant même qu'elle ait pu obtenir satisfaction, va pouvoir, comme ça, tout à coup se transformer, se renverser, dira-t-elle, en son contraire. Alors c'est donc là cette première grande ambivalence que l'on peut constater sur une interruption de grossesse. L'autre ambivalence que l'on constate, c'est que c'est un acte qui est tout à fait banalisé, en règle générale, ne serait-ce que par le fait qu'il est de toute façon autorisé, puisque légalisé. Cependant, on constate qu'en règle générale, c'est quelque chose qui reste très secret, quelquefois même dans un entourage proche. Alors ce secret est d'autant plus facile à maintenir de par les conditions dans lesquelles une interruption de grossesse a lieu. Effectivement, il n'y a aucune existence légale. En règle générale, les grands événements d'une vie sont la naissance et la mort. Ici, il n'y a pas d'inscription à l'état civil, pas plus que sur un livret de famille, non plus aucun rite funéraire. Ce sont des aspects que l'on constate peut-être encore davantage lors d'interruptions thérapeutiques de grossesse où les grossesses sont plus avancées. De plus, règle générale, on ne sait pas après l'intervention ce que deviennent les embryons ou les fœtus. Donc de ce fait, il y a véritablement maintien d'un secret. En analyse, lorsqu'il y a un secret, on dit qu'il y a un non-dit. Le non-dit est quelquefois tellement bien caché qu'il finit même par être caché. La personne elle-même finit même par se le cacher donc à elle-même. En effet, en pratique, c'est une chose que l'on constate fréquemment. Lorsqu'une femme vient pour faire un travail sur elle-même en analyse, lors des premières séances, lorsqu'elle évoque donc son histoire, il demeure tout à fait exceptionnel qu'elle relate une interruption volontaire de grossesse. Le plus souvent, c'est beaucoup plus tard, quelques mois, voire même quelques années plus tard, qu'à l'occasion d'une interprétation sur une séance, l'affect va être évacué sans intention préalable. On voit donc là qu'il y a une sorte de déni de la réalité, correspondant effectivement à ce non-dit. On sait également, lorsque l'on étudie cet aspect de façon psychogénéalogique, que ces non-dits donc amènent ce que l'on appelle des secrets de famille. Alors, en analyse, lorsqu'il y a non-dit, c'est qu'il y a de la culpabilité. En effet, on ne va pas dire quelque chose parce que ça ne se fait pas, parce que ça n'est pas bien. Effectivement, on sait que les culpabilités prennent toujours leurs origines sur des interdits. Alors, afin de mieux comprendre quelles sont ces culpabilités sur lesquelles repose donc le poids de la faute, j'ai pris la liberté de distinguer deux sortes de culpabilités. Des culpabilités, dirons-nous, plus ou moins conscientes, fondées sur des interdits conscients, et des culpabilités inconscientes, axées davantage sur des interdits inconscients. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les culpabilités conscientes, alors celles-là, ce sont celles qui, en fait, interviennent, dirons-nous, tout de suite après l'interruption de grossesse. Ce sont celles qui vont faire suite immédiatement après l'acte. Elles sont le plus souvent en lien direct avec le monde extérieur. En effet, bien que nous soyons dans une société dite tolérante et permissive, il n'empêche que l'on subit le poids des institutions, le poids de nos origines sociales, le poids de notre culture, voire même quelquefois le poids d'une religion, qui fait que très rapidement, on est soumis à la crainte du jugement de l'autre, la crainte du regard de l'autre, dirons-nous, ce qui, sous cette forme-là, donne un éclairage, dirons-nous, un petit peu paranoïaque. Donc cette première culpabilité, véritablement en lien direct avec donc le monde qui nous entoure. Alors, dans ce même ordre d'idées, il y a également une culpabilité quant à l'incapacité d'avoir pu être mère. Effectivement, on est encore imprégné, tout au moins sur le plan inconscient, du fait qu'une femme, parmi le sens qu'on lui donne, est celui donc de faire des enfants. et ne pas être mère est quelque chose qui peut être perçu de façon très négative. Enfin, une autre culpabilité, alors celle-ci peut être davantage justement dans les interruptions dites thérapeutiques, à savoir qu'il va y avoir un effet de double culpabilité. En effet, il va donc y avoir diagnostic d'une anomalie ou d'un handicap futur, et à la culpabilité de l'acte par lui-même va se surajouter la culpabilité de ne pas avoir été, dirons-nous, capable de faire un enfant normalement constitué. Donc là, c'est pour ce qui est des culpabilités conscientes, du fait qu'elles sont en lien direct avec, dirons-nous, le collectif, on peut les qualifier de culpabilités liées au symbolique. Ensuite, les culpabilités inconscientes. Alors, celles-ci sont, d'un point de vue analytique, les plus importantes et celles qui vont avoir le plus d'influence. Celles-ci, en opposition aux précédentes, vont intervenir avant l'interruption de grossesse. Ce sont celles, nous pourrons dire, qui vont en fait être les éléments déclencheurs du passage à l'acte. À l'inverse, donc, toujours des précédentes, elles ne sont plus en lien avec le monde extérieur, mais en relation directe avec soi, véritablement sur un processus inconscient. Alors, la première de ces culpabilités peut être liée à... Alors, oui, en fait, il y en a de nombreuses, puisque chacune, toutes ces culpabilités vont avoir un lien avec l'histoire de chaque femme, mais j'en ai isolé ce que je pense être les trois principales. Alors, la première, donc, une culpabilité liée à un interdit sur la relation sexuelle. En effet... Lorsqu'une femme va se retrouver en état de grossesse, il va y avoir, de toute évidence, la preuve incontestable qu'elle a eu une relation sexuelle. Alors, en fonction de l'éducation qu'elle aura reçue, il se peut qu'elle ait reçu une éducation donc très rigide, avec des parents, comme on dit, surmoïco-castrateurs, où la sexualité aura été hyper tabouisée, avec comme une sorte d'injonction véhiculant le fait que tu n'as pas le droit, c'est comme si les parents disaient à cette femme, tu n'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles, tu n'as pas le droit d'accéder au plaisir. Et alors, donc, dans la situation de grossesse, le surmoi va se vivre très culpabilisé et très vite la pulsion de mort va prendre le dessus. Il s'agit là d'un véritable mécanisme de défense face à une peur qui en fait n'est autre qu'un danger, le danger d'une angoisse de castration. Alors la seconde de ces culpabilités inconscientes, celle-ci est à mettre en lien plus direct avec la mère, donc, de la femme qui va se trouver enceinte. Effectivement, lorsque cette même femme a été donc enfant, il arrive chez certaines personnes que la fillette ait pu passer par ce que l'on appelle une phase de haine vis-à-vis de la mère. En règle générale, cette phase de haine se situe lorsque la petite fille va prendre conscience de sa spécificité corporelle et qu'elle va donc constater la différence entre le garçon et elle, constater surtout chez elle l'absence de pénis. Elle va alors vivre cette absence comme quelque chose qui la pénalise, comme une situation dévalorisante, comme un handicap. Elle va se sentir diminuée et va en vouloir à sa mère, la tenant pour responsable de ce qu'elle est. Il va donc y avoir de cette manière des sentiments très négatifs. Et lorsque cette même femme va se trouver donc en état de grossesse, par culpabilité, elle va retourner sur elle-même ces sentiments de haine qu'elle avait auparavant éprouvés vis-à-vis de sa mère. On parle en ce sens-là d'un mécanisme autopunitif. Enfin, la troisième de ces culpabilités inconscientes repose sur un interdit qui, d'un point de vue psychanalytique, est l'interdit le plus fort, puisqu'il s'agit de l'interdit de la transgression du tabou de l'inceste. Alors, il arrive quelquefois, donc même très souvent, qu'une femme qui attend donc un enfant va fantasmer que cet enfant est le fruit d'une relation incestueuse avec le père. Alors, pour un inconscient normalement constitué, nous dirons normalement névrotique, cette situation va être insupportable et il va donc falloir, ou plutôt, trouver une solution pour éliminer, pour gommer cette faute et surtout que personne ne s'en aperçoive. Dans ce même ordre d'idées, il va y avoir également une culpabilité quant à la mère, c'est-à-dire la mère en tant que l'épouse du père, culpabilité d'avoir pris à cette mère un bébé qui, en fait, devrait lui appartenir. Crainte aussi que cette mère puisse se venger, qu'elle puisse dépouiller quelque part de l'intérieur la jeune femme donc qui attend le bébé, puisse la attaquer son intégrité corporelle. Donc on vient de voir là que le plus souvent, en règle générale, les culpabilités prennent leur origine sur des œdipes non résolus, que ce soit dans la relation à la mère, dans ce que l'on appelle un œdipe négatif, ou bien dans la relation au père, sur un œdipe positif, où chaque fois on va retrouver ce fantasme d'enfant incestueux. Alors en psychanalyse, on sait que les choses ne se produisent pas par hasard. En effet, on sait que ce qui va nous arriver va toujours correspondre à ce qui nous a précédé. En effet, on sait que les secrets, si on reste dans cette notion d'IVG tenue secrète, que ces secrets donc trouvent toujours prennent racine sur le passé de notre histoire familiale. Alors, ce qui revient à dire que très souvent, si on aborde la chose d'un point de vue généalogique, on peut retrouver des générations en amont, voire même beaucoup plus longtemps, des siècles auparavant, on peut retrouver effectivement la venue d'un enfant incestueux, lequel aura été victime d'un infanticide. Il y a donc là quelque chose de tout à fait inavouable qui va mettre en place un symptôme transgénérationnel. Donc ce symptôme qu'il va falloir tenir absolument secret. Et on voit que de cette manière, là c'est par le biais d'une IVG, ça pourrait être par le biais d'un autre symptôme, qu'ainsi les secrets se transmettent silencieusement de génération en génération. Alors avant d'aller jusqu'à une génération future, ce n'est pas effectivement parce qu'une femme aura mis en place une interruption de grossesse que cela signifie pour autant qu'elle ne va plus avoir d'enfants après. Il arrive donc très souvent qu'il y ait un enfant qui survienne après une interruption de grossesse. On va donc l'appeler l'enfant post-IVG. Alors, de toute évidence, de par la place qu'il prend, de par le fait qu'il vient après donc un enfant qui n'est pas venu au monde, on va l'appeler enfant de remplacement. Il est incontestable, de façon plus ou moins consciente, que pour les parents, c'est quand même un petit peu celui qui va faire en sorte que ce qui s'est passé précédemment va être un petit peu oublié. C'est celui qui va aussi permettre à sa mère, pourquoi pas à ses parents aussi, de se déculpabiliser. Et en ce sens, on peut également parler d'enfant réparateur. Alors, c'est déjà pas facile, indépendamment de ce contexte, pour un enfant de se construire son vrai soi, ce que l'on appelle son vrai self, compte tenu d'une part de son héritage transgénérationnel et d'autre part des projections qui lui sont attribuées par ses parents. Là, il va lui falloir en plus endosser, dirons-nous, une identité supplémentaire, à savoir celle donc de l'enfant qui a été avant lui, donc on va dire de l'enfant mort. Alors Freud avait constaté le fait suivant, que pour l'inconscient de l'enfant, la notion de mort est quelque chose de très difficile à accepter, c'est quelque chose pour lui de très douloureux. Et il a une impossibilité pendant très longtemps à s'en faire une représentation, et qu'ainsi il va donc préférer donner comme synonyme à la mort cette notion d'absence. C'est-à-dire que mort égale absence. On va donc dire ici que c'est pour l'enfant post-IVG une identification avant tout à un enfant absent. Alors, absent signifie non présent. Ça peut paraître une évidence, mais c'est important dans une relation au temps, puisqu'être non présent, c'est être soit dans le passé, ce qui paraît donc logique, puisqu'il s'agit d'un enfant qui prend la place d'un enfant qui était avant lui, soit dans le futur, avec tout ce que cela représente de plus hypothétique. Mais il va y avoir pour cet enfant une impossibilité à s'inscrire dans le présent, à l'instant T, à savoir dans ce que l'on appelle le principe de réalité. Alors, on peut également y ajouter une définition plus juridique qui donne à l'absence la définition d'une disparition prolongée qui rend l'existence incertaine. Alors, ce qui revient à dire que cet enfant-là va avoir beaucoup de difficultés pour exister, voire même être dans une situation quasiment de ne pas exister. De plus, si l'on reste dans cette énergie d'IVG secrète, donc dans une situation de non-dit, en analyse, on sait que lorsqu'il y a un non-dit, cela signifie qu'il y a un trou dans une histoire familiale. Alors, un trou, c'est-à-dire qu'il va y avoir un maillon manquant dans ce que Jacques Lacan a appelé dans la chaîne des signifiants. Alors, qui dit trou, dit vide. On retrouve là le ventre vide, vidé de la mère. Et de vide à rien, il n'y a qu'un pas, c'est-à-dire que cet enfant va donc s'identifier à rien. Alors, être rien, eh bien, dans une vie d'adulte, c'est avoir tous les risques de difficultés à se réaliser, tant sur le plan affectif que professionnel, c'est-à-dire du risque de mise en place de névrose d'échec. De plus, rien est très proche également du néant, c'est-à-dire que cet enfant, dans des cas extrêmes, pourra même être dans des processus de néantisation, où là, il sera en danger sur des risques d'autodestruction. Alors, en second lieu, je vais donc envisager d'autres conséquences chez cet enfant post-IVG. Alors, pour ça, je vais davantage envisager l'aspect de la mère. En effet, lorsqu'une femme subit une interruption de grossesse, il est évident qu'elle subit une perte. On va dire qu'il s'agit là d'une perte d'enfant. Alors, lorsqu'il y a perte, intervient tout de suite après cette notion de deuil. En effet, on va perdre un être cher ou bien on va perdre son emploi. Mais c'est parce qu'ensuite, on va pouvoir mettre en place un deuil de bonne qualité, ce que l'on appelle un deuil accompli, qu'on va pouvoir, à un moment donné, passer à autre chose. Mais en pratique, ce n'est pas toujours aussi facile. C'est-à-dire qu'il va y avoir des situations dans lesquelles le processus de deuil va être beaucoup plus compliqué. Et il peut y avoir mise en place, dans ces conditions, de ce que l'on appelle un processus mélancolique. Alors, la mélancolie ne signifie pas pour autant qu'il va s'agir d'une personne qui va être désespérée du matin au soir et pleurer en permanence. La mélancolie peut avoir des manifestations beaucoup plus masquées et beaucoup plus cachées. Freud, dans son ouvrage « Deuil et mélancolie », a donc largement évoqué la mélancolie, la qualifiant d'une dépression profonde, faisant suite à une perte, donc à la perte d'un objet. Alors, il se passe la chose suivante, c'est que dans l'impossibilité de passer à autre chose, il va y avoir une libido, il va y avoir la libido qui va rester attachée à la situation antérieure, qui va rester fixée à l'objet perdu. Freud avait qualifié cela d'objet investi libidinalement. Alors, dans ces conditions, Freud avait également précisé que l'objet perdu dans le processus de mélancolie va alors devenir celui que l'on désirait le plus ardemment. Il va être l'objet aimé par-dessus tout et idéalisé. Alors, ce processus d'idéalisation va pouvoir avoir de lourdes conséquences sur l'enfant post-IVG. Tout d'abord, la mère, d'un point de vue parfaitement inconscient, bien évidemment, va pouvoir avoir vis-à-vis de son enfant des sentiments de haine, puisqu'il prend la place donc de cet autre qui était fantasmé comme étant mieux. Et donc l'enfant en post-IVG aura de grandes difficultés à se réaliser, là aussi, puisque sans cesse, d'un point de vue inconscient, sa mère, voire même ses parents, vont le comparer à cet autre enfant idéalisé, c'est-à-dire enfant parfait, avec donc une barre positionnée de façon très, très haut, et il ne pourra jamais y accéder. Donc là aussi, on retrouve la forte probabilité de processus d'échec. Alors, toujours dans cette idée de processus mélancolique, il est à noter également le fait suivant. Alors pour ça, il est utile de faire un bref rappel théorique en ce qui concerne ce qu'avait donc expliqué Winnicott. Winnicott avait donc dit que le visage de la mère est le précurseur du miroir. C'est-à-dire que lorsque l'enfant regarde le visage de sa mère, ce n'est pas sa mère qu'il voit, mais c'est lui. C'est-à-dire qu'il va se reconnaître au travers du visage de sa mère, et cette dernière va manifester dans son regard son état d'âme. L'enfant va donc véritablement introjecter son état d'âme. Ce qui revient à dire que sur un processus mélancolique, cet enfant aura un grand risque d'être un jour à son tour un profil mélancolique. De plus, cette mère, donc, qui est en état de souffrance dans sa mélancolie, va chercher à moins souffrir. Et pour cela, elle va mettre en place ce que l'on appelle une régression. À savoir qu'elle va donc repartir, chercher de façon inconsciente, donc à retourner dans la situation où elle était lorsqu'elle était donc avec cet enfant perdu. C'est une manière pour elle de fantasmer qu'elle le récupère. Elle va donc l'introjecter. Et dans le cas présent, il s'agit de l'introjection, donc, du mort. Alors, en analyse, c'est un processus que l'on connaît, indépendamment du cas cité. Effectivement, il arrive que certains inconscients, de cette manière, introjectent un mort qu'ils ont pu l'avoir connu, ou bien un mort qu'il n'est pas connu. En fait, c'est un processus qui a un bénéfice, qui est le suivant, c'est de lutter contre l'angoisse de mort. En effet, si j'introjecte quelqu'un de déjà mort, de cette manière, je vais fantasmer que la mort ne m'atteindra pas. Donc, de la même manière, donc, l'enfant post-IVG, par identification à sa mère à nouveau, va lui aussi introjecter le mort. Alors, introjecter un mort en soi, c'est pas dramatique. S'il s'agit d'un mort qui a eu une vie globalement satisfaisante et qui a vécu pendant longtemps, mais là, c'est pas le cas du tout, puisqu'il s'agit donc d'un décès prématuré dans toute l'ambivalence du terme, et que donc l'enfant post-IVG va s'identifier à un enfant, on va dire, mort avant de naître, à savoir mort avant de se réaliser. Et là aussi, donc, on retrouve tous les risques liés à l'impossibilité de se réaliser dans la vie. Alors, on voit là tout l'impact qu'une interruption volontaire de grossesse peut avoir sur un entourage familial. Alors, il est bien évident qu'une femme peut tout à fait avoir le droit de la liberté de garder l'acte secret. C'est avant tout une question intime, mais qu'on ne peut que constater que, de toute évidence, ça s'inscrit de toute façon dans une composition familiale, dans une histoire familiale. En psychogénéalogie, on parle de constellation familiale. dans l'ordre d'une fratrie, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Que l'on soit le premier, le second ou le troisième, ce n'est pas la même chose. Alors on peut comme ça penser qu'on est le premier, alors qu'en fait on n'est que le second, et les conséquences seront très différentes. En effet, on peut imaginer donc un individu qui, à l'âge adulte, malgré tous les efforts qu'il aura mis en place, aura toujours beaucoup de difficultés à y arriver, aura toujours du mal à gagner, à réussir ce qu'il veut. Il restera en quelque sorte un petit peu un éternel poulidor de son existence. Et il est bien évident que, alors qu'au conscient il pense être le premier, étant donné que pour son inconscient il est le second, on va dire que sans prise de conscience, sans savoir véritablement où est sa place, le processus peut durer donc très longtemps. De plus, cette notion de non-dit met en place ce que l'on appelle une rupture, c'est-à-dire une rupture dans la chaîne d'un continuum d'une histoire familiale. Et on sait là aussi que c'est au travers de ces ruptures qu'il y a le plus de risques d'apparition dans les générations futures de profils psychotiques. En effet, Jacques Lacan, donc dans son expression de la forclusion, qui est le témoignage d'un manque, de quelque chose qui fait défaut, avait effectivement dit que la psychose prend origine sur de la forclusion. Alors, on voit donc toutes ces conséquences. C'est vrai que j'ai là dressé peut-être un tableau un petit peu négatif. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas d'être en faveur ou d'être contre, mais on voit toute l'importance qu'il peut y avoir à effectuer effectivement un travail, pour, comme il a été dit précédemment, pour donner sens. Là, dans ce que je vous ai traité, essentiellement pour permettre une déculpabilisation, pour permettre qu'il n'y ait plus de secrets honteux, permettre également que des interdits transgénérationnels soient évacués afin qu'ils ne viennent plus polluer les générations en aval. Car de toute évidence, on voit que ce soit avant une interruption de grossesse, quant aux motifs qui vont donc la mettre en place, ou que ce soit après, quant aux conséquences sur un paysage familial, c'est de toute évidence une histoire de famille. Voilà. Si vous voulez me poser des questions.
Bon, alors, il faut dire ou il ne faut pas dire aux enfants ce qui s'est passé?
Oui, bien.
Il faut dire, il ne faut pas dire, il faut le dire au père s'il n'est pas au courant, il faut le dire aux enfants qu'il y a eu un demi-frère avorté, enfin voilà, il faut éclaircir
oui,
ça.
Oui, vous avez raison de poser la question. À mon sens, il ne s'agit pas de le dire sans que la demande en soit faite. Voilà, c'est-à-dire que c'est dire, mais dire lorsque l'enfant sera prêt à l'entendre. Il va toujours y avoir un moment, je pense, dans la vie d'un enfant où la question, de toute façon, va venir. Et à ce moment-là, effectivement, il s'agira de ne pas lui mentir et de lui dire la vérité. Mais attendre qu'il soit prêt à l'entendre. Oui.
Elisabeth Imfeld, du planning familial de Genève. Je suis psychologue là-bas. Dans votre expérience, madame, là, on a entendu donc l'enfant avorté, enfin l'embryon avorté, et après idéalisé. Hein. Est-ce que vous avez, dans votre expérience aussi, l'enfant avorté parce que mauvais objet, mauvaise relation à une mère méchante, vécue comme méchante, haïe, etc., et que finalement, cette femme s'est donc débarrassée de ce mauvais objet? Vous me direz, il y a l'autre côté. Alors, est-ce que... Ma question, c'est... par rapport à cet enfant idéalisé, est-ce que vous avez en revanche, donc qui a été avorté, aussi l'enfant mauvais qui a soulagé la femme, et l'enfant qui vient après, postigé, doit remplacer en mieux un enfant mauvais, enfin celui qui a été avorté avant? C'est compliqué, c'est un peu un modèle kleinien si vous voulez, plutôt que lacanien ou freudien. Un bon et mauvais objet, et que l'enfant qui vient après doit au contraire ne porte pas, mais doit se dépasser et surpasser l'autre, le précédent.
Oui, disons qu'en analyse, il va toujours y avoir de toute façon cette alternance de bons et mauvais objets. Oui. Donc effectivement, l'objet va être perçu à certains moments bon et ensuite mauvais, mais la culpabilité va toujours à un moment donné intervenir, qui va faire qu'à nouveau, il va reprendre la place d'un bon objet. Pour un inconscient, les choses ne sont jamais figées. Donc ça va alterner d'une manière ou d'une autre.
Non, parce que c'était le versant non plus mélancolique, mais plutôt de surpuissance, dans la mégalomanie plutôt. Donc, en concert avec une mère aussi. Voilà.
Oui, mais enfin, comme ça se fonde malgré tout sur une pulsion de mort, on ne peut quand même pas imaginer qu'un inconscient ne culpabilise pas sur une pulsion de mort. Donc la culpabilité va forcément ramener l'autre au statut de bon objet, puisque dans la culpabilité, on prend la place du mauvais objet. C'est celui qui culpabilise qui est le mauvais objet. Donc en couple d'opposés, l'autre devient le bon objet.
On ferait l'économie de la culpabilité dans ces cas-là.
Oui, mais enfin, je pense que sans culpabilité, il n'y aurait peut-être pas de psychanalyse.
Autre question, témoignage. Oui.
Je voulais juste vous féliciter parce que j'ai rarement entendu quelqu'un parler de notions importantes aussi puissantes en psychanalyse avec autant de clarté et de connaissances intégrées.
Merci.
Bravo.
Nous allons faire une pause d'un quart d'heure. À tout à l'heure.